Il est 13h sur Bac FM 106.1. On est live en cette journée du 12 février 2026. C'est le retour de ce journal, chers auditeurs. Figurez-vous que votre fidèle serviteur était en train de recevoir les candidats au municipal de Nevers. Toutes ces émissions seront diffusées la semaine d'avant les élections du 15 mars. Mais en attendant, le monde continue de tourner. Alors les news, c'est parti. Et on commence avec une nomination qui fait grincer des dents. Emmanuel Macron a choisi Amélie de Montchalin, actuelle ministre des Comptes Publics, pour prendre la tête des Cours des Comptes et succéder à Pierre Moscovici. Sur le papier, ce serait une première. Amélie de Montchalin deviendrait la première femme à présider cette institution. Mais sur le fond, la polémique est forte. Ses opposants dénoncent une fidèle macroniste nommée à un poste censé contrôler l'action de l'État, alors qu'elle est aujourd'hui elle-même aux commandes de la machine budgétaire. À gauche, plusieurs élus pointent un problème de juges et partis, notamment sur le budget de 2026 et l'évaluation de politique publique qu'elle a directement portée. Et après la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, certains y voient surtout une nouvelle étape dans la reprise en main des contre-pouvoirs. Vous l'avez compris, le président Macron semble obsédé par l'idée de perpétuer son héritage post-2027. Et on continue avec l'agriculture et un débat qui sur le papier devrait être un moment de démocratie mais qui a surtout tourné au simulacre à l'Assemblée nationale. Mercredi 11 février, les députés se sont penchés sur la loi du plomb après une pétition record, 2,1 millions de signatures pour demander son abrogation. Sauf que ce débat, inédit par son origine citoyenne, n'a débouché sur rien de concret. Pas de vote possible et deux blocs campés sur deux visions irréconciliables. D'un côté, du centre à l'extrême droite, la défense d'une loi dite nécessaire hein, au nom de la compétitivité. De l'autre, une gauche unie qui dénonce un texte écrit pour l'agro-industrie avec en ligne de mire le retour de pesticides dangereux et du recul du principe de précaution. Alors pour le contexte, la loi avait déjà été imposée en force. En mai 2025, une motion de rejet déposée par le député LR Julien Dive avait expédié le texte en commission mixte paritaire, court-circuitant le débat parlementaire après des milliers d'amendements, c'est à n'y rien ni comprendre, et même si le Conseil constitutionnel a censuré la réintroduction des néonicotinoïdes, Laurent Duplomb revient lui à la charge. Le sénateur LR a déposé le 30 janvier une nouvelle proposition de loi pour tenter de réintroduire deux insecticides dont l'acétamipride a dénoncé comme neurotoxique et destructeur pour les pollinisateurs, notamment les abeilles. Dans l'hémicycle, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard a aussi repris l'argument des impasses techniques en s'appuyant sur un rapport de l'INRAE, sauf que, selon les chercheurs cités par Le Monde, ce rapport est instrumentalisé et ne conclut pas à ses impasses pour la plupart des filières. Et autre sortie polémique, comme si ça ne suffisait pas, la ministre a aussi insinué que la pétition aurait été poussée par des robots. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a dû recadrer. Les signatures ont été vérifiées. Une dérive donc au relent trumpiste. Et le feuilleton continue. Une nouvelle pétition contre la loi Duplomb 2 tourne déjà et frôle les 160 000 signataires. Et puis après le fait divers au couteau qui a choqué ces derniers jours où une prof s'est fait poignarder par un collégien, voilà un vieux réflexe politique qui revient, chercher un coupable du côté des écrans. Dans une interview accordée à Brut début février, Emmanuel Macron relance le débat des jeux vidéo violents. Le président estime que passer des heures sur des jeux où l'on descend tout le monde, pour reprendre ses termes, il cite Fortnite, déréalise le rapport à la violence. Il dit vouloir être éclairé par la science avant d'agir, sauf que le président n'a pas dû beaucoup se renseigner sur ce point. La littérature scientifique existe déjà. Aucune causalité solide entre jeux vidéo et passage à l'acte d'une telle violence. En revanche, les urgences, elles sont très concrètes pour les jeunes. Santé mentale des jeunes, manque de pédopsychiatres, précarité étudiante, des réalités bien plus lourdes que les pixels. Une consoeur journaliste en a fait une très bonne chronique pour l'humanité, je vous en passe un extrait.
Le point central qui est à retenir, c'est qu'aucune étude scientifique sérieuse ne prouve une quelconque causalité entre les jeux vidéo et le passage à l'acte violent. Et d'ailleurs, ce que l'on dit moins souvent, c'est que certaines études montrent que les jeux vidéo peuvent avoir même des effets positifs sur la santé mentale des jeunes. Là, je me base par exemple sur une étude qui a été menée au Japon après le Covid et qui montre que les jeux vidéo peuvent notamment réduire l'isolement, créer du lien social grâce à des communautés en ligne, servir d'échappatoire face à l'anxiété, réduire la détresse psychologique ou encore améliorer l'estime de soi. Mais alors, la question qui se pose évidemment, c'est si on voit que la recherche nous donne une réponse aussi claire vis-à-vis de cette question. non, les jeux vidéo ne rendent pas violents. Alors comment est-ce qu'on explique que ce débat-là dure depuis les années 90 de façon extrêmement répétitive ? Eh bien, c'est parce que cet argument-là sert souvent d'alibi politique, de raccourci commode qui nous évite d'aller regarder là où ça fait mal. Plutôt que d'interroger, je sais pas moi, la santé mentale, la précarité sociale, les parcours familiaux complexes, la désagrégation des services publics, la montée généralisée des violences ou...
Et au passage, si l'Elysée veut vraiment parler jeux vidéo, il y a peut-être plus urgent que la morale, hein. L'économie de l'addiction, les microtransactions par exemple, ou les lootbox. Bref, la violence, elle est souvent à chercher dans celle du monde économique, d'entreprises capitalistes toujours plus voraces. Et on termine avec une actu culture qui va parler aux fans d'anime. Le comédien de doublage japonais Kozo Shiwa, voix mythique de Majin Buu dans Dragon Ball Z et ensuite Dragon Ball Super, est décédé le 20 janvier à l'âge de 71 ans des suites d'une hémorragie cérébrale. Son agence Aoni Productions a officialisé l'annonce le 28 janvier. Figure majeure du doublage au Japon, Shiwa avait aussi participé à d'autres séries populaires et les hommages se multiplient depuis sur les réseaux sociaux. Bac FM voulait lui rendre hommage également. Et si, comme beaucoup d'ados des années 2010, vous avez découvert Boo via Dragon Ball Z Kai sur la superbe et défunte chaîne Game One, vous allez reconnaître la musique. C'est la fin de ce tour de l'info, chers auditeurs. Merci de m'avoir écouté. Dans un instant, on parle Sciences Po avec Sarah Timon. Mais d'abord, un brin de musique. Allez, à tout de suite sur Bac FM.